Et ceux qui ont des marque-pages vont être avantagés parce que je vous invite déjà à aller dans le premier livre des rois. On fera une lecture tout à l'heure, mais c'est pour éviter que vous perdiez du temps tout à l'heure. Donc pendant que je fais la petite introduction sur le cantique des cantiques, sur ce qui a déjà été vu, hop, tournez quelques pages, allez dans premier livre des rois et ce sera le chapitre premier. Alors je résume, hein, je rappelle ce qui a été déjà dit sur le chapitre 8. Le chapitre 8, c'est une série de leçons à tirer de l'ensemble du cantique des cantiques. Et la présentation est un peu particulière parce que c'est tous ceux qui sont intervenus dans le cantique des cantiques qui arrivent ici et puis ils disent une phrase, ils disent un mot, ils ramènent une expression et on voit ainsi l'évolution de chacun des personnages. Et la dernière fois, nous étions arrêtés au verset 10. C'était le contexte où les frères de la Sulamite avaient demandé, voilà, on a une petite sœur, et qu'est-ce qu'on fera avec elle? Sous-entendu, qu'est-ce qu'on fera avec elle pour lui éviter qu'il lui arrive ce que toi, il t'est arrivé, d'être pris là dans le cortège royal, et puis que tu as frôlé d'habiter dans le harem. Et puis la Sulamite avait répondu, voilà, bah, ça dépendra de la circonstance de la sœur. Si la sœur, elle est solide comme un mur, elle est fermée, eh ben, on l'encourage là dans ce sens-là. Mais si elle est un petit peu ouverte, on la compare à une porte, si elle est un peu ouverte au vagabondage, aux choses du monde, à la flatterie, à cet appel de l'or et des paillettes du palais, alors effectivement, on mettra une planche de cèdre pour la protéger, pour la préserver. Et puis donc, verset 10, Cantique des Cantiques, on avait lu, on va relire le verset 10, où la Sulamite continue, hein, dans cette explication. Bon, on peut lire le verset 9. Si elle est un mur, donc elle parle de sa sœur, si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Donc si elle est solide, nous l'encouragerons, nous la couronnerons. Si elle est une porte, sous-entendu une porte ouverte, alors nous la fermerons avec une planche de cèdre. Un appel à lui limiter un peu sa liberté. Et puis verset 10, voilà qu'elle dit, « Je suis un mur et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui apporte la paix. » Alors, je suis un mur et mes seins sont comme des tours. J'étais à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Bon, donc on avait déjà vu, hein, c'est lié avec le contexte avant, que elle s'est servie de sa sœur. Elle a utilisé des éléments de la construction, la porte, le mur, les créneaux, l'or, le bois, le cèdre. Et donc, évidemment, quand elle dit « Je suis un mur et mes seins sont comme des tours », elle évoque la résistance qu'elle a assumée devant le roi Salomon, qui était lui plutôt conquérant dans ses séductions. Et donc elle se compare, voilà, à un mur avec des tours, et voilà, elle exprime là sa position. Et voilà que tout de suite après, elle va associer sa résistance. Je suis un mur, mais ça sont des tours. Ça aurait plutôt un langage plutôt guerrier. Et pourtant, tout de suite, elle associe sa résistance à la paix. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Et en fait, cette petite phrase, comprenons que c'est la grande leçon du cantique des cantiques. La Sulamite, que l'on a vu traverser beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, a finalement trouvé la paix en résistant dans une mentalité de pureté et de fidélité. Elle a trouvé la paix, mais en résistant avec une mentalité de fidélité et de pureté. La Sulamite est un exemple que la fidélité et la pureté et le chemin qui mène à la paix. Alors, voyons maintenant quelques détails de ce verset-là. J'étais à ses yeux. Et on pourrait dire aux yeux de qui? aux yeux de qui est-ce qu'elle a été trouvée comme celle qui a trouvé la paix? Bah, on a envie de dire aux yeux du monde, aux yeux de tout le monde. Si elle s'exprime à l'égard de Salomon, bah oui, aux yeux de Salomon, quand on relit ses prises de position, elle n'a jamais été agressive. Elle a été forte, elle a été positionnée, elle a manifesté des prises de position solides, mais elle n'a jamais manifesté d'agressivité, de méchanceté. Elle a résisté seulement. Aux yeux du bien-aimé, oui. Parce que le bien-aimé, même s'il n'était pas là, son cœur pouvait être rassuré de savoir que sa bien-aimée, elle, demeurait fidèle à son bien-aimé. Trouver la paix aux yeux des filles du harem. Les filles du harem, même si elles ont commencé à se moquer d'elles, finissaient par être admiratives de ce petit bout de femme, tout en éclat, tout en beauté, et pourtant qui était capable de résister aux sollicitations du roi. Aux yeux des frères, qui, malgré leur irritation de retrouver leur sœur dans cet état-là, ont pu retrouver une certaine paix en la retrouvant là, libérée. Peut-être même aux yeux de la petite sœur, qui a entendu les histoires de sa sœur, mais qui a à ses yeux maintenant une femme qui a retrouvé la paix. Bref, on peut dire que la conduite de la Sulamite témoigne aux yeux de tous qu'elle est une femme qui a trouvé la paix. Mais on pourrait dire que c'est plus que trouver. C'est plus que trouver. Je ne vais pas rentrer dans l'étymologie, hein, mais on peut même dire que la Sulamite incarne la paix, mais pas seulement une paix humaine, mais la paix divine, la paix selon Dieu. Parce que la paix selon Dieu, ce n'est pas une absence de problème. Mais la paix selon Dieu, c'est à la fois une force. Par cette paix, on trouve la force. Mais la paix selon Dieu, elle vient aussi de notre relation avec Dieu. On a la paix parce qu'on est fidèle au Seigneur, et il nous communique la paix, mais on sait aussi que cette paix nous permet d'être forts devant les circonstances de la vie. La paix de Dieu est une force devant les problèmes. Et on a pu observer que maintes fois, la Sulamite a été oppressée par les remarques du cortège, par le harem, par le roi lui-même, par des situations de doute aussi. On a vu qu'il y avait des moments où elle était déstabilisée, mais parce qu'elle était dans la paix. Parce qu'il y avait cette solidité dans son cœur, cette fidélité, cette constance. Alors elle a pu traverser les différentes étapes. La parole nous invite à vivre cette paix au-delà des tourments. C'est pas une paix humaine, on est d'accord. Mais la parole de Dieu nous parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. En Philippiens chapitre 4, verset 7. Et c'est cette paix-là que nous devons rechercher. Malgré le tourment, malgré la pression, malgré la déstabilisation, malgré les doutes, malgré l'oppression extérieure, malgré l'oppression intérieure, Seigneur, donne-moi cette paix. Donne-moi cette quiétude, donne-moi cette profondeur qui fasse que, quoi qu'il arrive, je vais préférer la fidélité au compromis. La paix de Dieu est aussi dépendante de notre conduite vertueuse. La Bible nous dit très clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Choisir le mal communique le mal à l'intérieur de nous. Quiconque veut connaître la paix de Dieu, doit se séparer du péché. On ne peut pas vivre la puissance, la grâce, la sérénité. On ne peut pas connaître cette quiétude intérieure. On ne peut pas connaître cette paix qui surpasse toute intelligence si dans notre vie, nous mêlons à notre vie de mauvais comportements. Si notre conduite est malsaine. S'il y a encore du mensonge, s'il y a encore de l'hypocrisie, s'il y a encore des calculs, s'il y a de l'infidélité. C'est impossible. Et c'est vrai que cette paix, cette prise de position, cette détermination à la fidélité, à la pureté, nous emmènera de temps en temps sur des chemins qui nous secoueront. Parce que notre propre prise de position à vouloir suivre le Seigneur nous emmènera peut-être des fois sur des chemins difficiles. C'est dans l'Épître à Timothée que Paul dit, il prévient que tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu, tous ceux qui veulent vivre dans la fidélité, dans la pureté à Dieu, ils seront persécutés. Parce qu'effectivement, quand on décide de suivre le Seigneur Jésus, quand on décide d'être intègre, d'être vrai, de ne point se fourvoyer dans les choses du monde, alors on se retrouve avec des situations qui sont de temps en temps contraires. Mais soyons-en certains. Le choix de la fidélité, le choix de la pureté, le choix de l'obéissance à Dieu a pour fruit la paix. Non seulement la paix présente, mais même la paix éternelle. En fait, la notion de la paix, on n'a jamais... Elle est contenue depuis le début du Cantique des Cantiques. On voyait le combat, mais derrière le combat, il y avait cette personne qui s'appelle la Sulamite. Et le nom même de Sulamite évoque la notion de la paix. En fait, il peut y avoir deux sens essentiels à ce nom-là, la Sulamite. Sulamite, ça peut venir du mot Sunamite, pardonnez-moi, originaire de la ville de Sunem. Et Sunem, ça veut dire paix. Donc là, la Sulamite pourrait signifier la personne qui habite Sunem, la ville de la paix. Et d'ailleurs, cette Sunem, on la retrouve dans un autre mot que l'on connaît bien qui est Jérusalem. Voilà, on retrouve ce fondement. Et d'ailleurs, Salem, de temps en temps, on ne disait pas entièrement Jérusalem, de temps en temps, on disait Salem pour signifier la ville de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est-à-dire fondement de paix. Donc la paix est là. Il y a aussi Sulamite qui pourrait tout simplement être le nom féminin de Salomon. Voilà. Alors on n'a pas vraiment d'explication pourquoi est-ce que dans cette histoire l'auteur a choisi le nom de Sulamite. On n'a pas forcément de raison. Ce n'est pas une histoire vraie, le Cantique des Cantiques, c'est une parabole. Mais quand même. Je crois que il n'y a pas de hasard, et on se rappelle que c'est Salomon qui est l'auteur du Cantique des Cantiques. Et derrière ce mélange de lieux, Sunem, de symbolisme, Jérusalem, derrière ce rapprochement par rapport à sa personne, Salomon, et je crois que Salomon a probablement été inspiré d'un fait réel qu'il a vécu. Et c'est pour ça que je vous ai encouragé à aller dans le premier livre des rois. Et vous allez voir là une histoire qui est très étonnante. Parce que on va voir beaucoup de points communs entre cette histoire, la vraie histoire. Là on n'est plus dans une parabole, on n'est plus dans un fait divers, on n'est plus dans une allégorie, on est véritablement là-dedans. Non pas dans un texte poétique, mais dans un texte historique. Et premier livre des rois, chapitre 1er. Alors on ne va pas tout lire, je vais vous lire les passages essentiels. Et verset 1er, voilà ce qu'il est écrit. Le roi David était vieux. David, c'est le papa de Salomon. D'accord ? Salomon est encore un jeune homme, il n'est pas encore roi. Donc là on est un petit peu avant. Et le roi David est vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent « Que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, c'est-à-dire juste à côté de lui pour lui tenir chaud. Et mon seigneur le roi se réchauffera. » Alors, on chercha dans tout le territoire. Imaginez, on cherche dans tout le pays d'Israël une jeune fille et belle, et on trouva Abishag. C'était son nom, la Sunamite. Oh, comme par hasard, une Sunamite. Que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne l'a connu point. Rien que la description ressemble beaucoup à notre Tsunamite du Cantique des Cantiques. Elle est belle, elle est jeune, elle est fort belle. Regardez, rappelez-vous les commentaires que les filles du harem disaient d'elle. Mais tu es plus belle que parmi toutes. Et cette jeune fille, on l'a choisie parmi toutes les filles du pays. Elle était belle. Elle était vierge. On retrouve là beaucoup de caractéristiques. Et puis, lisons le verset 5. Adonija, fils de Hagig, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi. » Alors, je ne vous lis pas le reste, mais cet homme-là, qui était un des fils du roi David, sentant son père en train de décliner, là, de mourir, il se dit « C'est moi qui vais être le roi. C'est moi qui vais être le roi. » Alors, il fait quoi? Vous le lirez à la maison. Il organise un grand repas. Il invite des gens. Et en fait, il essaye de faire, une sorte de meeting politique où il espérait, au travers de ce rassemblement, faire un coup d'État. Que tout le monde l'applaudisse et que, un peu porté par la foule, un peu porté par la circonstance, on croit qu'il est roi, quoi. Et voilà ce qu'il est en train d'organiser. Il organise une fête pour se proclamer roi. D'ailleurs, on peut lire le verset 13. « Mais roi à la place de Salomon. » Parce que le roi David avait déjà choisi que celui qui le remplacerait. Et c'était prévu que ce soit Salomon. Et c'est pour ça qu'on lit au verset 13. « Va, entre chez le roi David et dis-lui, « Oh mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, « Salomon, ton fils, règnera après moi et il s'assiera sur mon trône. » Donc là, il y avait confusion. Il y avait cet homme qui cherchait à faire un coup d'État. Et puis, il y avait la mère de Salomon qui disait « Mais pourtant, c'est mon fils qui devrait être établi sur le roi. » Alors, la suite du chapitre explique le complot, comment c'est déjoué et comment le roi David finit officiellement par établir Salomon sur le trône et donc sur Israël et comment Adonija, lui, est renvoyé chez lui. Mais cet homme Adonija n'a pas été tué. Il rentre chez lui. Il laisse un peu le temps passer. Mais lui, Adonija, il n'a pas démissionné de son objectif. Il veut véritablement être le roi. Il ne sait pas comment faire. Et à la mort du roi, voilà qu'il passe par la mer de Salomon. Salomon est devenu le roi, ok. Il passe par la mer pour essayer de lui demander quelque chose. Et voyez ce qu'il lui demande. Et là, on arrive au chapitre 2. Et au verset 10. David se coucha avec ses pères, ok. Vous comprenez qu'il est mort. Et il fut enterré dans la ville de David. Lisons le verset 12. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Et voilà qui on retrouve là au verset 13. Adonija, fils de Hagig, alla vers Bathsheba, c'est la maman de Salomon, mère de Salomon, pardonnez-moi, c'est écrit, et lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Il dit, oh bah oui, bien sûr. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Elle dit, parle. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. C'est là qu'on voit qu'il n'a pas oublié ce qui s'était passé. Mais la royauté a tourné. Elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Mais maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit, parle. Elle dit, dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te le refusera pas à toi, qu'il me donne pour femme Abishag la Tsunamite. Bathsheba répondit, bien, je parlerai pour toi au roi. Continuons au verset 22. Le roi Salomon répondit à sa mère : Pourquoi demandes-tu Abishag la Sulamite pour Adonija ? Demande donc la royauté pour lui. Lisons le verset 23. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant : Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonija mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jojada, qui le frappa, et Adonija mourut. Récapitulons l'histoire. Le roi David est vieux. On va chercher dans tout le royaume une jeune fille. Cette jeune fille est là pour s'occuper du roi. Le roi meurt. Salomon est placé à sa place. Et voilà que ce monsieur Adonija va voir le roi Salomon et dit « Oh !» Lui qui avait déjà fait un coup d'État qui n'avait pas fonctionné, mais qui n'a pas pour autant oublié ce désir de devenir roi, il va faire une demande. « Tiens, tu... roi Salomon, indirectement, tu veux bien que me donner la jeune fille ? Elle est tellement belle. Tu veux même la donner pour épouse ?» Et là, on se dit « Mais pourquoi est-ce que le roi Salomon se met en colère comme ça ?» Parce que le roi Salomon commence à dire « Oh, toi, tu me demandes ça ?» Mais c'est pour ta perte. Et voilà que, à cause de cette demande qu'Adonija formule, Salomon décide de tuer Adonija. Pourquoi ? Alors, il y a un contexte historique et culturel qu'il faut comprendre. Il y avait une sorte de... je ne sais pas comment dire, de culture, de... qui faisait que quand un roi était destitué, le roi avait souvent plusieurs femmes, quand quelqu'un prenait pour lui toutes les femmes de ce roi-là, quelque part, symboliquement, on lui consacrait également le trône. Vous comprenez ? En fait, quand quelqu'un prenait les maîtresses et les reines du roi précédent, eh bien, c'est comme s'il prenait possession de tout le royaume. Et Adonija, c'est ce qu'il voulait faire. Quelque part, il dit « Oh, donne-moi la femme !» Mais il savait, et Salomon savait très bien cette pratique-là. Et Salomon comprend que dans la démarche d'Adonija, si Salomon lui accordait Adonija, s'il lui accordait la Sulamite, légitimement, après, Adonija pouvait réclamer le royaume. Il aurait pu dire au peuple, regardez, j'ai la femme, j'ai les femmes du roi David, donc le royaume est à moi, il m'appartient. C'était un stratagème pour cet homme, Adonija, en prenant juste la jeune fille, de vouloir se légitimer, de réclamer tout le royaume. Et c'est pour ça que le roi Salomon a bien compris le cœur pernicieux de cet homme-là. Il a bien compris que s'il laissait encore cet homme en vie, il aurait plein de problèmes. Il savait surtout éperdument que s'il acquiesçait la demande de son frère, et ben le pays d'Israël aurait été divisé. Parce que lui était appelé de Dieu, lui aurait revendiqué quelque chose de la royauté, et ça aurait été que dispute, guerre, et évidemment ça aurait été le territoire d'Israël qui aurait été brisé, saccagé. Alors le roi Salomon a pris un choix sans compromis. Il sait que le cœur de cet homme est resté méchant, envieux, qu'il est prêt à des stratagèmes. Alors il lui coupe la tête. Ce fut, et rappelons-nous de l'histoire et du contexte, Salomon était fort jeune. Fort jeune quand il monte sur le trône. Son père n'était pas encore entièrement mort. Et quand il meurt, et ben c'est la première histoire qu'il a à gérer. Imaginez-vous, demain, vous devenez président de la République. Vous allez avoir plein de problèmes à gérer. Plein de problèmes. Et je pense que, en tant que novice, même s'il a eu... il a grandi dans le palais, mais ce n'est jamais la même chose que d'être ministre ou de devenir roi. Et c'est la première affaire que Salomon va devoir gérer. Et c'est pourquoi je vous dis que derrière cette histoire du Cantique des Cantiques, je crois que Salomon a gardé le souvenir de toutes ces choses-là. C'est la première affaire que le roi Salomon a dû trancher sans compromis. Et il y a effectivement là, dans cette situation, Salomon a dû faire le choix de la pureté, de la vérité, de la justice, sans compromis. Et il y a plein de points communs entre le Cantique des Cantiques et cette histoire vraie qu'il a dû vivre. Déjà, une tsunamite, et là c'est une vraie tsunamite. Ce n'est pas une tsunamite poétique, mais c'est une vraie tsunamite. Elle est belle, elle est jeune, elle est très belle, même par rapport à toutes les filles du royaume. C'est une jeune fille qui est restée pure. On a vu, elle n'a pas eu de relation avec le roi David. Avec le roi David. C'est une jeune fille qui a été convoitée, désirée par un prince. Adonijah était prince. Et je ne vous l'ai pas lu là tout, mais au verset 6, il nous est dit qu'Adonijah était aussi un jeune homme très beau de figure, comme le roi Salomon. La Sulamite, dans le Cantique des Cantiques, a dû résister au charme de Salomon. Rappelez-vous comment les filles du harem étaient vraiment en extase, en adoration devant leur roi. Convoitées, désirées, demandées, mais pas forcément aimées. Pas forcément aimées. Adonijah réclamait la fille, mais son but c'était pas la fille, son but c'était le royaume. Mais une pureté qu'il a fallu protéger. Une pureté que Salomon a dû garder et préserver avec détermination, sans faiblesse, sans compromis. Alors, nous n'avons pas la suite de ce qui s'est passé avec cette jeune fille. On n'a pas d'histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé de cette jeune fille. Mais ce que l'on sait, ou ce que l'on peut penser, c'est que cette jeune fille qui était au service du roi David, une fois que le roi David est mort, elle avait rempli sa mission. On aurait pu se dire, le roi Salomon aurait pu la prendre pour femme. Une si jolie fille, déjà dans le palais, autant en profiter. Mais on voit qu'au chapitre 3, ce n'est pas avec elle que le roi Salomon se fiance et se marie. Il se marie au contraire avec une femme, avec la fille de Pharaon. Donc on réalise bien qu'il ne l'a pas prise pour femme. Alors, bien sûr, le texte ne le dit pas, mais on peut penser qu'effectivement, comme dans le Cantique des Cantiques, cette Sulamite est repartie libre. Elle est probablement repartie libre. Vierge, pure, belle, pour vivre sa propre vie. Voilà, pureté, fidélité, paix, voilà la grande leçon du Cantique des Cantiques. La paix par la fidélité. La victoire par la pureté. La liberté par l'intégrité. La force dans la sainteté. L'amour dans la vérité. Et que nous aussi, nous puissions être comme cette tsunamite. Et que quand les gens nous voient, qu'on puisse également donner ce bon parfum de justice, de vérité, de paix, qu'il n'y ait point de compromis, que notre cœur ne soit pas non plus parasité par le péché, mais que nos cœurs soient vraiment déterminés à aimer le roi des rois, à se préserver pour le roi des rois et à l'honorer en toutes choses. Amen. Et que nous puissions communiquer à tous ceux qui nous voient cette paix qui vient du ciel. Amen.